passer l'info sur Europe 1.
Tout
et puis évoquer, bien évidemment, cette question de l'euthanasie qui ne fait pas rage, mais anime les débats dans notre pays en ce moment. On se retrouve tout de suite, Giuseppe, à tout de suite.
Tout à fait, Olivier.
Europe 1, il est 23h. Un tour de l'info, c'est avec vous, Maël Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire ouverte après la blessure par balle de Kenji Girac. Les enquêteurs ont commencé à recueillir des témoignages, mais ils sont confus, selon le parquet de Mont-de-Marsan. La compagne du chanteur a été entendue, mais pas l'artiste lui-même. Son audition sera réalisée quand son état de santé le permettra. Pour le moment, il assure qu'il s'est blessé lui-même par accident en manipulant une arme achetée dans une brocante. Cette arme a été retrouvée. Elle fait l'objet d'analyses. Le gérant du manège de la fête foraine de Blois, où une femme de 27 ans a trouvé la mort ce week-end, est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Il n'a plus le droit d'exercer son métier pour le moment. Une barrière de sécurité de l'attraction s'est ouverte. La victime a alors été éjectée du manège en marche. Elle est décédée des suites de ses blessures. L'adolescent agressé à Grande-Synthe dans le Nord dans la nuit de vendredi à samedi dernier, puis laissé dénudé en pleine rue, a lui-même été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Philippe Kopman. Ce mineur est le cousin de l'un des deux adolescents déjà mis en examen et placé en détention provisoire depuis le décès du jeune homme de 22 ans battu à mort dans la même commune la semaine dernière. On ne connaît pas pour le moment le mobile de la dernière agression en date. Autre agression marquante survenue au cours des derniers jours, celle de la jeune Samara à Montpellier. L'adolescente de 13 ans n'est pas revenue au collège en ce jour de rentrée scolaire. Elle suit désormais les cours à distance et les personnels de l'établissement accusés d'avoir failli à leur devoir de protection de la jeune fille avant l'agression ont tenu à faire entendre leur colère en se mettant en grève ce matin à la surprise générale. Le mouvement pourrait se poursuivre demain. Mouvement social d'ampleur en prévision dans les aéroports jeudi prochain. Les négociations entre les syndicats des contrôleurs aériens et la Direction générale de l'aviation civile sur l'organisation du travail ont échoué. L'appel à la grève est donc maintenu pour la journée du 25 avril. Plus de 70% des vols pourraient être annulés par endroit. La pagaille va continuer au moins jusqu'au 30 avril sur l'autoroute A13. La préfecture des Hauts-de-Seine indique que la portion située entre le périphérique parisien et l'A86 ne rouvrira pas avant le lundi 1er mai. Une fissure de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur a été détectée en fin de semaine dernière sur la route, fissure provoquée par un mouvement de terrain. Cet itinéraire très prisé par les Parisiens souhaitant se rendre en Normandie notamment. TikTok se dit déçu par l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne sur la nouvelle application du géant chinois TikTok Lite. Cet outil lancé en France et en Espagne fin mars récompense les utilisateurs avec des cartes cadeaux en fonction du temps passé sur l'application. Selon Bruxelles, ce mécanisme pose des risques graves pour la santé mentale, notamment des plus jeunes. TikTok Lite pourrait être bloqué dès jeudi en Europe. Et puis il y a 65 ans, jour pour jour, Miles Davis, et oui, finalisait l'enregistrement de son album le plus connu, Kind of Blue, sorti le 17 août 1959. Ce disque deviendra son plus grand succès grâce à des titres comme So What, que vous entendez. Kind of Blue est unanimement considéré comme l'album le plus influent de l'histoire du jazz.
Magnifique. Miles Davis, formidable, mon cher Maël.
Ça vous a fait plaisir.
Ouais, ça m'a fait plaisir. C'est une musique calme, ça détend. Vous m'étonnez, du haut de vos jeunes années, d'avoir des goûts aussi éclectiques et aussi subtils, mon cher.
Ça me touche, merci Olivier.
Mais écoutez, je le pense profondément, vous le savez.
Oui, je sais.
Au-delà de votre esprit vraiment critique et votre manière... D'ailleurs, vous avez des fans, on a même des SMS pour vous maintenant.
Ah bah, ça n'arrête plus.
Bon, donc il n'y a pas que moi. Vous avez entendu l'autre jour Martine, qui a dit, Martine, qui est une agricultrice là-bas dans l'Eure, qui expliquait à sa fille, qui vient ici souvent, qui est une amie journaliste de Florian, combien elle vous trouvait, mais impeccable.
Mais je salue Martine, et je la remercie pour ce beau compliment.
Et on l'embrasse bien fort, parce que la pauvre Martine affronte encore des soucis liés à l'administration, qui n'a toujours pas compris que nos paysans étaient en train de mourir, et qui continue sans la moindre pitié de harceler cette pauvre Martine qui viendra nous expliquer ce qui se passe dans quelques temps et qui, je crois, reçoit quand même la solidarité de quelques-uns des agriculteurs de la région là-bas, près de Conches. Mais on en reparlera durant la semaine. Merci mon cher Maël, on se retrouve tout à l'heure à partir de minuit.
À tout à l'heure.
Dernier tour de l'info, à tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 6 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écran lettre majuscule suivi d'un espace. Vous pouvez aussi écrire vos SMS au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule suivi d'un espace, et remarquez, comme je viens de le dire, deux fois de suite. C'est quand même fou. Ça fait partie des, vous voyez, des choses dont je vous parle parfois, des troubles de l'attention qui peuvent m'amener à appeler Giuseppe, par exemple, d'un seul coup, Patrick. Alors que Giuseppe est bien là et qu'il est toujours bien sagement en attente. Vous êtes là, Giuseppe ?
Tout à fait, Olivier.
Voilà. Alors, vous nous parliez de votre maman, donc qui ne voulait pas risquer une intervention, et on comprend pourquoi, avec des poumons qui étaient noyés par de l'eau, en fait. Hein.
Écoutez, moi je ne suis pas médecin, donc je pense que d'autres seraient plus qualifiés que moi. Apparemment, c'est le cœur qui ne pompant pas bien provoquer cette pathologie.
D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Pas d'intervention, pas le risque d'une intervention pour votre maman.
Non. Non.
Ce qui fait que elle vous dit qu'elle va se faire euthanasier. C'est un peu violent, en fait. Vous voyez, la manière de dire « je vais me faire euthanasier », ça a dû vous choquer un peu, non ?
Alors, c'est pas tout à fait ça qui m'a choqué, mais ça je l'expliquerai après. Vous devez savoir que, en fait, bon, j'ai moi-même une formation de philosophe à la base.
D'accord.
Et donc... pour l'anecdote, si vous voulez, quand j'étais donc en deuxième candidature, ce qu'on appelle en France le deuxième bachelier, donc nous avions un cours de droit naturel, qui est un petit peu, si vous voulez, l'interstice entre la philosophie et le droit. Et avec quatre autres étudiants, on avait proposé au professeur donc la diffusion d'un film qui n'est pas du tout connu, un film qui mettait en scène Raquel Welch, qui s'appelle en anglais « Right to die » et qu'on traduit en français par « Choisir sa mort » ou « Le droit de mourir ». Et donc c'était un film qui avait été diffusé dans le cadre de l'écran témoin, qui était l'équivalent belge à l'époque des dossiers de l'écran.
D'accord.
Et donc on avait donc décidé avec ce professeur de diffuser ce film dans un auditoire, donc dans un amphithéâtre, de manière tout à fait publique. Donc tout le monde pouvait venir voir le film, c'était un mardi après-midi. Et c'était ensuite suivi d'un débat animé par les cinq étudiants, chacun présentant un axe différent de l'euthanasie. Donc l'historique, le scientifique, le philosophique, le théologique, le psychologique, le juridique, etc. Et dans ce film, Raquel Welch, qui est atteinte d'un cancer, dans un cadre tout à fait hollywoodien, demande à se faire euthanasier. Et à la fin du film, et c'est ça qui est troublant, on voit tous ses amis qui, un après l'autre, défilent pour lui dire au revoir. Mais chacun est pris dans un plan où on ne voit que le visage, si vous voulez. Donc c'est très hollywoodien, c'est quand même très marquant. Et je pense que ma maman, sans le vouloir, avait été très marquée par ce film, si bien que le véritable choc, si je peux me permettre de le dire, c'est quand elle m'a demandé d'organiser, d'inviter ses amis pour le 3 janvier. Donc moi, j'ai reçu l'annonce vers le 21-22 décembre, et donc les médecins avaient décidé de l'euthanasier le 3 janvier. Pour lui laisser une semaine, je dirais, on dirait la semaine du condamné, où on l'avait mise en chambre unique, on pouvait la visiter jour et nuit, elle pouvait boire et manger tout ce qu'elle voulait, et je peux vous dire qu'on a fait la fête, homard, champagne et tout ce qui va avec. Mais alors le jour et l'heure de l'euthanasie, ça a été quelque chose de traumatisant, je crois, pour les gens qui ont été invités à venir assister à ça. Je ne sais pas si vous imaginez une petite chambre, avec les deux médecins qui sont très gênés de devoir commettre l'acte, les amis les plus proches, dont une personne qui n'a pas pu rentrer dans la chambre, une autre personne qui n'a pas pu regarder, qui regardait par la fenêtre et qui pleurait comme une madeleine, et puis tous ses amis qui lui tenaient la main. Et alors, moi, j'avais décidé, de commun accord avec ma maman, de me tenir derrière le médecin pour un petit peu, si vous voulez, valoriser la parole que j'avais donnée, et qui était, si je pouvais moi-même appuyer sur la seringue, je le ferais dans un acte de charité profonde. Eh bien, je peux vous dire qu'après ça, les gens ont quitté la chambre, mais je ne peux pas dire sans dire au revoir, mais c'était presque ça.
Oui.
Et pour la plupart, j'ai plus jamais eu de nouvelles, et les gens m'ont dit, on ne vient pas à l'enterrement parce qu'on est venu assister à l'euthanasie.
Et pourquoi, en fait, pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir, en fait?
Je ne sais pas. Je pense que le choc a été terrible.
D'accord.
Et c'est pour ça que je vous téléphone. En fait, moi, je fais confiance aux parlementaires pour dire je pense qu'une loi, elle est toujours imparfaite, mais une bonne loi sera votée, je pense. Et je pense que si on s'appuie sur les modèles comme la Belgique, je pense qu'on aura des résultats corrects. Autre chose est quand on ignore le traumatisme psychologique que ça peut causer chez des personnes. Parce que je pense que les gens s'imaginent que l'euthanasie, c'est quoi? C'est un médecin qui arrête une machine ou qui appuie sur la seringue. Et puis c'est tout, voilà. Mais c'est pas ça du tout. En Belgique, on autorise tout à fait des personnes à venir assister à ça. Mais imaginez quelqu'un qui rentre chez lui, et la scène est sordide, et qui aperçoit sa compagne ou son frère ou qui que ce soit pendu.
Oui.
C'est quand même traumatisant.
C'est traumatisant, mais... d'accord,
l'euthanasie, il y a peut-être une différence, c'est qu'on choisit d'assister ou pas.
C'est une grande différence quand même, tu sais.
Une grande différence, mais j'ai bien vu que la plupart des gens n'étaient pas vraiment préparés à ça.
Ça oui.
Je pense même qu'ils sont la moitié venus pour faire plaisir. Je suis désolé de dire ça. Et alors, ce qui m'a vraiment, moi, posé question, c'est ce côté, je vais dire, christique. Bon, il faut savoir que ma maman a travaillé pendant 33 ans comme sacristine, donc c'est la personne qui, dans les églises, prépare les cérémonies, le matériel. Et je crois que c'est une personne qui a toujours donné de son énergie pour les autres, mais je lui ai toujours dit, on dirait que tu attends une médaille ou une statue, parce qu'elle attendait toujours un contre-retour. Et je crois qu'elle a voulu se mettre un petit peu en scène, je dirais oui, comme Jésus sur la croix, voilà. Et je crois que ça a vraiment troublé beaucoup de monde.
Je pense que, vous voyez, on en entend parler comme ça à la radio. Alors nous, en France, nous entendons parler de la loi qui avance, des uns qui sont pour, des autres qui sont contre. Finalement, ce sont des mots, souvent. Lorsqu'on se retrouve confronté à la mort et à la fin de vie de quelqu'un qu'on a connu, que l'on a fréquenté, d'une intelligence ou d'une gentillesse, en tout cas une personnalité, l'humain, il évoque plein de choses dans sa personnalité, il renvoie plein de choses, et la mort, c'est l'arrêt de tout ça. Oui. On passe dans une autre dimension qui est celle du souvenir. Mais il n'y a plus de production intellectuelle, vous voyez, il n'y a plus de production émotionnelle. Et je crois pouvoir dire que moi, je serais très impressionné de cela.
Oui.
J'ai perdu mon père dans des conditions violentes. On n'est pas préparé à cela. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement choqué, blessé. Alors que j'ai pu le veiller ensuite et tenir même avant qu'il soit enterré, être avec lui dans la chambre mortuaire et rester de longs moments à ses côtés. Mais parce que on avait passé le, vous voyez, cette étape dont vous parlez, l'étape où la vie s'arrête.
Oui.
Qui est à mon avis là que là se joue le l'aspect choquant, en tout cas l'aspect choc des choses.
Oui, moi je pense que c'est l'aspect technique qui est choquant parce que
l'aspect quoi ?
Technique de la.
Technique, d'accord.
Alors je vous explique. Donc le médecin injecte d'abord une sorte de somnifère assez puissant. Donc là, aucun problème. Mais alors, il prévient les gens en disant, voilà, je vais injecter le poison et vous allez voir la personne réagir. Et c'est très impressionnant parce que le cœur se met à accélérer et la poitrine bouge comme si le corps tentait de combattre le poison. Et ça, je vous assure que c'est très impressionnant.
Oui.
C'est-à-dire, l'idée de l'euthanasie, d'une personne qui part tranquillement, qui abrège ses souffrances, ça n'est pas du tout ça. Ce sont des secondes, mais violentes.
Très longues, non ?
Oui, ça paraît long. On a l'impression, c'est une fausse impression, on a au fond l'impression que la personne souffre. Et c'est horrible de voir ça. Et donc, je peux comprendre que des gens étaient vraiment touchés
choqués,
par ça. Choqués, oui. D'ailleurs, on peut parler de choc aussi dans le cadre du corps de ma maman. Mais alors, l'arrêt, je ne pense pas à l'arrêt de la vie, parce que la dernière parole qu'elle a dite, c'est très amusant, elle a dit « Je m'en vais rejoindre mon fils ».
Oui,
bon, il faut savoir que mon frère cadet est décédé il y a quelques années. Et donc, c'était un message d'espoir qu'elle laissait, au fond.
Je pense aussi que oui, dans sa tête, parce que on évoque ceux qui restent, ceux qui sont choqués par la démarche, mais n'oublions pas que celui qui va mourir se prépare à ce départ, comme on se prépare à un voyage. Et je pense de même que l'aspect « je vais rejoindre mon fils » est quelque chose qui porte dans la décision. Vous voyez, qui diminue la peur même, parce qu'il y a quand même une partie d'inconnu dans, même si on part rejoindre un être ou plusieurs êtres aimés, le doute peut être là tout de même. Elle ne doutait pas.
Non, moi je l'ai trouvée très sereine et vous dire que les derniers 10 jours qu'on a passés ensemble, c'était peut-être les plus positifs de notre relation. On a eu une relation assez tendue pendant toute la vie. C'était assez drôle, je dois dire. Et je dirais, ce qui était drôle, c'est que quelques minutes avant l'acte, elle avait demandé à boire du champagne.
Oui.
Et alors, il y a eu une petite discussion entre des amis qui étaient venus avec du champagne français, bien sûr, et moi qui étais venu avec un crémant belge, qui est d'une très bonne qualité. Et alors, il y avait un petit peu cette tension, et elle avait choisi le belge. Voilà, bon, qui entre nous est produit par des Français, donc je veux dire, il n'y a pas de discussion possible. Mais vous voyez, il y avait un peu cet humour de dernière minute, quel champagne on va boire. Voilà. Et elle avait demandé au médecin de boire le champagne. Vous voyez, donc, je ne sais pas, je pense que doute, non. Non, parce
quand
que
je parle de doute, peut-être
sur l'acte ou sur l'après-vie ?
Sur le passage, en fait, toutes les questions qui peuvent nous animer de l'après, pour peu qu'on soit croyant. En fait, votre mère allait rejoindre son fils bien-aimé, m'avez-vous dit. Donc, il y a une certaine forme de croyance, quelque part, même si je ne sais pas si elle croyait en Dieu ou non. Mais,
Oui.
Donc, il y a tout de même un départ pour une autre destination, là.
Oui, clairement. Mais elle m'avait raconté il y a une trentaine d'années, lors d'une opération, apparemment, elle avait fait un mini arrêt cardiaque. Puis elle me disait avoir vu ce tunnel, mais sans plus. Vraiment le début du tunnel, puis on l'avait ramené. Bon, il faut savoir aussi que moi, j'ai enseigné la religion catholique, et dans le programme, on étudie avec les étudiants, notamment, tous ces témoignages de personnes qui disent avoir été dans des tunnels, ou qui communiquent avec l'au-delà par des moyens électroniques. Donc, en fond, ce sont des questions qu'on a toujours discutées en famille, depuis au moins 30 ans. Et pour nous, mais ça c'est une question personnelle, nous on a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait quelque chose après. Voilà. Il y a probablement quelque chose, sinon tout ça serait stupide.
Vous, en tant que prof de philo, vous êtes croyant, vous aussi?
Alors, en principe, un philosophe n'a pas à se poser de questions, mais moi je suis croyant.
Pourquoi un philosophe n'a pas à se poser de questions? Comment ça?
Alors normalement, le philosophe se distingue de la science et de la religion. Donc, il ne fait pas d'expérience de laboratoire.
Il ne croit pas
par principe, si vous voulez. Mais il reste ouvert à toute démonstration, toute intuition.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce dogme-là?
Moi, personnellement, oui. Personnellement, je...
Qu'un philosophe n'est pas censé se poser ce type de questions, c'est très... Je trouve ça très curieux, mais
je veux dire, il n'a pas à affirmer les choses sans avoir un minimum d'intuition et de démonstration.
Ah oui, d'accord.
C'est une sorte de paradoxe. Mais disons que moi, quand je vois le nombre de témoignages, les livres, les récits de gens qui disent avoir vécu quelque chose, moi je trouve ça quand même... pertinent. Et moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'après ce monde, il n'y ait rien. Ce serait dommage. Ce serait une perte d'énergie, je dirais. Le monde est énergie. Donc, que ce soit énergie visible ou invisible, ça, c'est une grosse discussion. Mais je trouverais vraiment dommage que ce monde disparaisse sans qu'il n'y ait rien après. Voilà. Mmh. Donc, ma conviction, mais elle est personnelle, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui. Je la partage.
Maintenant, je n'ai jamais eu d'expérience de transcommunication, ni de voix qui me sont parvenues, non. Par contre, l'intuition qu'on a un ange gardien ou qu'on a un destin préconçu, ça oui. Mmh. Oui. Et alors, puisque vous abordez la question de la religion, qui est quand même un axe fondamental, ben c'est vrai qu'après cet événement, j'ai eu l'occasion de parler avec des collègues ou des amis musulmans, catholiques, protestants, orthodoxes et athées. Et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, voilà, dans notre religion, ben, sauf les athées, bien sûr, l'euthanasie, c'est non. Mais
oui.
Si ça avait été ma maman, ben, je crois que j'aurais agi comme vous.
Oui.
Et je crois que ça pose question.
Je crois que ça dépasse, vous voyez... La religion est quelque chose de très personnel, finalement, de très intime.
C'est ça.
Vous voyez, moi, je n'ai jamais été partisan du grand partage de mes croyances.
C'est ça.
C'est comme, je dirais, la sexualité. C'est quelque chose qui est très personnel.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas de belles ou de mauvaises idées autour de cela. Je comprends qu'il y ait des gens que ça interpelle, que certains autres soient choqués, ne veuillent pas en entendre parler. Mais preuve est faite que beaucoup, je pense que j'aurais très peur de ça, mais je suis plutôt partisan qu'on choisisse sa fin de vie. Cela me semble être une liberté qui ne regarde, encore une fois, personne. Et ça ne regarde que Dieu et vous-même.
Exact.
Voilà. Les gens qui portent un jugement là-dessus, je trouve ça bien prétentieux encore de pouvoir porter un jugement sur tout ça. Y a pas mal de gens assez limités qui n'ont pas la capacité de réfléchir pleinement à cette question-là, malheureusement.
Mais je crois que ça n'est pas une question de réfléchir. Vous savez, le plus grand philosophe belge du XXe siècle, Jean Ladrière, que j'ai eu comme professeur, disait cette phrase très simple, on ne reconnaît une situation comme éthique que lorsque précisément on est impliqué dedans. Mm-hmm. Or, c'était un grand logicien, c'était quelqu'un qui pouvait vous pondre des théories énormes, que tout le monde respectait.
Ça va avec ce que je viens de vous dire, hein, en fait. Et je n'ai pas lu ce philosophe, mais finalement, ça veut dire la même chose.
Ça veut dire que vous êtes au moins aussi grand philosophe que lui.
Non, ça n'est pas ce que je voulais dire, Giuseppe. Ça n'est pas ce que je voulais dire.
Non,
mais,
j'ai tout à fait compris.
Mais voilà, ça fait partie enfin, en tout cas pour moi, qui suis très libre, un être très libre, qui est toujours considéré que ma liberté passait avant tous les dogmes, tout ce qu'on pouvait pondre, tout ce que avaient pondu. Moi, les hommes, ils peuvent pondre ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense moi, ce que je ressens moi. Avec grand plaisir, nous échangeons ce soir, Giuseppe, l'envie d'en débattre et de s'ouvrir aux autres. Mais toutes ces questions-là sont très personnelles. Et comme vous disiez, à partir du moment où on est concerné, je pense qu'en plus la dimension de tout ça change. Oui, on peut en parler comme ça le matin au café, mais quand on est concerné, ça change. Et vous l'avez été.
Et je crois que c'est ça un peu le but de mon intervention, c'est que ceux qui pondent les lois, est-ce qu'ils sont concernés ? D'un autre côté, ils sont obligés de pondre une loi qui est universelle. Mmh. Alors nous venons de dire tous les deux que c'est un problème avant tout personnel. Je crois que le grand paradoxe est là, c'est qu'il n'y a pas vraiment une solution à ce problème. Mmh. Maintenant, on ne peut pas non plus permettre l'euthanasie pour un oui, pour un non. Mmh. On ne peut pas non plus justifier certains suicides sous couvert de l'euthanasie, parce que ça existe évidemment, faut pas croire. Il y a des gens ils sont dépressifs, alors ils arrivent à convaincre trois psychiatres que la vie ne vaut pas la peine, et voilà, on autorise. Mmh. Et je crois que, c'est une question qui est donc juridique, psychologique, et j'ai presque envie de dire philosophico-théologique.
Oui, complètement.
Voilà. Et je sais que, avant l'intervention, je me suis dit, est-ce que je vais parler de l'aspect théologique ? Moi, je crois que c'est important. Voilà. Alors, j'ai conscience que peut-être certains de mes propos ont pu choquer des personnes, c'est pas du tout le but.
Mais ça n'est pas le but, peu importe, je vous dis.
Peu importe, parce que...
Et je vais rajouter à ce que vous avez dit, que si ceux et celles qui votaient les lois, à chaque fois, se sentaient concernés, ce ne serait pas autant le chaos en Belgique comme en France, mon cher ami. Donc, j'ai peu de confiance en celles et ceux qui votent aujourd'hui les lois, en tout cas en France. On va marquer une pause, Giuseppe, et on va se retrouver tout de suite après. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2+1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi ?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
23h28 sur Europe 1 et depuis quelques minutes, nous échangeons avec Giuseppe autour de l'euthanasie. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout début d'intervention, mon cher Giuseppe, c'est que les amis de votre mère n'ont par la suite pas souhaité, ou officiellement pas pu, ce que ça veut bien dire, assister aux funérailles de leur ami. Ça montre l'onde de choc qui peut être provoqué par justement le choix de mourir comme ça et le choix de convier celles et ceux qui avaient sûrement un avis sur l'euthanasie, mais qui sont venus là et qui ont été sans doute pour la plupart meurtris par ce moment-là.
Probablement. J'ai même eu une personne qui, en entrant dans la pièce, m'a regardé avec un air de reproche, mais vraiment de reproche.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Parce que vous étiez peut-être l'héritier et que... Vous n'avez pas pensé à ça ? Que vous étiez sûrement l'héritier et que ce regard de réprobation peut-être chargé d'un de ça. Ah ben tu vas hériter, donc tu as laissé ta mère prendre une décision comme celle-là, donc ça t'arrange bien. Vous n'y avez pas pensé?
Eh bien si. Alors c'est très facile d'y répondre. Tout d'abord, il n'y avait aucun héritage en jeu, aucun, que du contraire. Mais ce n'était pas le cas de ma grand-mère qui a survécu donc à ma maman et qui est morte il y a quelques semaines. Oui. Et là, je voudrais quand même aussi témoigner parce que c'est une expérience violente. Donc, un dimanche, vers 1h15 de l'après-midi, je me rendais au travail puisque je travaille parfois le week-end. Je reçois un coup de téléphone de la maison de repos. C'est le médecin urgentiste qui me dit « Votre grand-mère va très mal. Il n'y en a plus pour longtemps. Il faut prendre une décision. » Je dis « Écoutez, madame, je suis en voiture. Mm-hmm. Vous me prenez de court. Je suis à 10 minutes de la maison de repos. Si vous voulez, je viens. » »« Non, je n'ai pas le temps. Je suis urgentiste. Vous devez prendre la décision. » À ce moment-là, je pose la question « Mais quelle décision ?» Puisqu'il n'y a pas de demande d'euthanasie active. Elle me dit « Voilà, moi je peux artificiellement la conduire à l'hôpital, la maintenir sous machine. Elle ne va pas tenir plus de 2 semaines. Ou bien, si on ne fait rien, elle mourra prochainement. » Eh bien, je peux vous assurer que dans ma tête, la première réaction que j'ai eue dans ma tête, qu'est-ce que je dois répondre et qu'est-ce qu'un juge va me dire selon telle ou telle réponse? Il va me dire « Ah, ben voilà, vous avez laissé mourir votre grand-mère parce que vous vouliez l'héritage. » Bon, première chose, l'héritage, je l'aurais eu 2 semaines après, je veux dire, parce qu'elle était dans un état pas possible. Alors, j'ai eu quelques amis confidents à qui j'ai montré une des dernières photos que j'avais prises d'elle. Ils m'ont dit « Ben, on voit bien que c'était la fin. » Mais vous avez tout à fait raison, Olivier. Quand la personne qui doit prendre une décision ou autoriser une décision ou laisser faire, je vais dire, ben ça peut engendrer effectivement un blocage héritage.
Ça peut bloquer, d'accord.
Oui, c'est-à-dire si on prouve, alors il faut comprendre mes propos. Hein. Si on prouve que j'ai réussi, alors c'est pas le cas de ma grand-mère, attention, hein, à obtenir l'euthanasie en tant qu'héritier, et qu'on peut prouver que c'était dans le but de recevoir un héritage anticipé, eh bien, un juge peut très bien dire « vous n'aurez pas l'héritage ». Alors, allez prouver que c'est dans un acte de charité.
Oui, d'accord.
Alors pour l'histoire, pour ceux qui auraient des soupçons, quand je suis arrivé à la maison de repos, ma grand-mère est morte devant moi 1h15 après. Donc, et les infirmières qui étaient là venaient tous les quarts d'heure prendre sa pulsation, parce qu'elle me disait « elle va partir aujourd'hui, ça se voit, bon... » Alors à quoi ça aurait servi de la tenir 2 semaines en plus sous machine? Je ne sais pas.
Pas grand-chose en tout cas, je pense.
Alors bien sûr que probablement, il y aura peut-être un juriste qui en entend dans l'émission, on dira « mais si, mais attention, c'est un... » Mais non. Quand vous êtes en voiture et que vous avez exactement 3 minutes pour prendre une décision... C'est dramatique, je veux dire, c'est une chose horrible.
Mmh. Mais voilà encore, on rentre à nouveau dans...
C'est inhumain.
Oui, et on rentre encore dans le jugement, dans le regard de l'autre.
C'est ça. Mmh. Mais personne ne m'a jugé, personne. Bon, d'abord, qu'on soit de nouveau bien clair, il n'y a pas eu euthanasie active. Hein, ça, je veux dire, parce qu'en Belgique, il faut signer un certain nombre de papiers, il faut 3 médecins qui attestent, il faut une demande... en liberté et conscience. Or, ma grand-mère était totalement inconsciente. Voilà. Donc, le médecin était très clair avec moi, mais c'est ce côté... j'ai pas le temps. Voilà.
J'ai pas le temps, oui.
Mais je comprends, c'est une urgentiste. Vous imaginez le poids et le risque d'accident, vous êtes en train de conduire. Et vous vous dites en même temps, oui, je dois prévenir mon patron que je ne pourrais pas venir, ceci, cela.
Dernière question, Giuseppe, on va être obligé de conclure. Cela vous a-t-il renvoyé vous-même à une décision très personnelle sur vous, sur le jour où, si cela bien évidemment arrive, hein, parce que ça n'est pas obligé d'arriver, on peut très bien partir dans son sommeil, on peut très bien partir paisiblement, mais bon. Il y a quand même une chance que cette option se présente à vous. Est-ce que ça vous a renvoyé à cela ?
C'est une très bonne question. Mais j'ai presque envie de vous répondre que moi, je pense qu'on ne peut répondre à cette question que quand on est tout près du problème. C'est très facile de le dire aujourd'hui, oui, je vais refuser l'acharnement thérapeutique, oui, je vais demander une piqûre, oui, je sais pas. C'est parce que moi, petit, j'ai connu beaucoup de cas de cancer sur lesquels on s'est acharné. Bon, j'ai un oncle qui est un éminent professeur en oncologie. Moi, j'ai vécu cet acharnement. J'ai jamais compris le but de l'acharnement, jamais. Jamais je ne l'ai compris. Alors maintenant, c'est difficile de répondre. Voilà. Si moi j'étais dans un cas où on me dit voilà, vous pouvez encore vivre 2 jours, ça sera pas sympa, mais vous pouvez encore vivre 2 jours, ou bien on peut terminer tout de suite. Mm-hmm. Mais je crois que quelque part, on a toujours cette idée de l'infini, on se dit je vais encore vivre les 2 jours.
Ben oui.
Mm-hmm. Je crois. Mm-hmm. Donc.
Plus l'idée de l'espoir, je pense, que de l'infini, non ?
C'est ça. Pour autant qu'on soit conscient.
Pour autant qu'on soit conscient, bien évidemment.
Voilà. Mm-hmm. Mais bon, dans le cas de... Je reprends de ma grand-mère, elle était totalement inconsciente, mais voilà, elle ne se serait plus jamais réveillée, en fait.
Oui.
Donc dire au médecin, oui, bah, écoutez, faites-en une plante, c'est magnifique. Sachant que dans les 2 semaines maximum, c'était fini, bon... Maintenant, c'est vrai que peut-être en 2 jours, on a peut-être encore le temps de faire beaucoup de choses, je ne sais pas, probablement.
Mm-hmm. Bon,
on a peut-être le temps d'appeler des gens en disant « voilà, je te demande pardon parce qu'un jour je t'ai dit ça ou je t'ai fait ça ». C'est vrai que... Non, alors là, je pense que si on m'annonçait un cancer, je ne suis pas du genre à m'acharner, mais oui. On n'en sait rien.
On n'en sait rien, je crois.
Non, donc ça, je ne vais pas vous répondre. Là, je vous renvoie à Jean Ladrière. Mm-hmm. C'est quand on est dans la situation que... Mm-hmm.
Et, voilà. Et je renvoie à celles et ceux qui ont la responsabilité de voter cette loi.
C'est ça.
À leur responsabilité de considérer que cette liberté ne leur appartient pas et nous appartient à chacun et à chacune, et qu'ils doivent impérativement voter cette loi à l'unanimité. Parce que ça n'est pas une question qui les concerne, c'est une question qui concerne chacun et chacune d'entre nous, encore une fois. Merci Giuseppe pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, c'était très intéressant et très plaisant d'échanger avec vous, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau.
Mais j'espère, en tout cas, j'apprécie beaucoup ce que vous faites et je tiens à vous féliciter de votre qualité d'animation alors que vous n'êtes pas psychologue de formation.
Non.
Oui, avant c'était mon Sophie Peters et j'avoue qu'au début, quand j'ai su que c'était vous, j'ai dit tiens, c'est bizarre. J'étais un peu dubitatif et voilà, je tiens à m'en excuser publiquement. J'ai douté de vous, et j'aurais pas dû.
Mais vous n'étiez pas le seul, voilà. Ne vous inquiétez pas.
Non, je sais, j'ai lu des commentaires sur Facebook,
oui, mais qui n'étaient pas très gentils. Mais le doute fait partie aussi des choses qui nous font progresser et avancer. Et donc, j'ai toujours aimé le doute, moi. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, c'est le doute qui m'a toujours fait avancer dans la vie. Donc, douter de l'autre amène. Alors, il faut que quand on doute de l'autre, on ait cette curiosité de savoir si on doute bien ou on doute mal.
C'est ça.
Voilà. Et la preuve que vous doutiez, mais que vous avez quand même écouté pour voir où tout cela nous menait.
C'est ça, et franchement, moi je suis vraiment, mais vraiment ravi d'avoir échangé avec vous.
Merci beaucoup.
Parce que vous posez vraiment des bonnes questions, et cette intervention m'a pas mal libéré de beaucoup de choses. Même si j'ai conscience que j'ai dit des choses qui peuvent conduire à fâcher certaines personnes. Mais bon, j'en prends la responsabilité. Voilà, je pense que c'est trop important par rapport à ce point de vue qui n'est que légal d'apparence. Mm-hmm. Mais il y a tellement d'autres implications.
Mm-hmm. Voilà. Complètement. Merci, Giuseppe.
Je vous en prie, bonne continuation.
Bonne fin de soirée, merci. Et on
vous
embrasse,
aussi,
on embrasse toute la Belgique, au revoir.
Nous-mêmes.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut
j'étais un homme avec Diane Tell. 23h43 sur Europe 1 et n'oubliez pas des rendez-vous incontournables car vous y êtes bien sur Europe 1. Et l'un de ces rendez-vous parle d'histoire avec Stéphane Bern, historiquement vôtre, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Et Stéphane, demain, retracera l'histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Historiquement vôtre, c'est tous les jours de la semaine de 15h à 16h avec le charmant et l'illustre et le pointu Stéphane Bern. Et c'est sur Europe 1. On accueille Jacqueline maintenant. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ? Vous aimez Diane Tell, non ?
Oh j'adore, c'était ma jeunesse.
Ah oui.
Pas ma jeunesse. Diane Tell, et puis il était une fois tout à l'heure, alors c'est toute...
Ça vous a fait vibrer.
Oh bah oui, hein.
D'accord, très bien, bah, vous m'envoyez ravi. Comment allez-vous, oui, oui. Jacqueline ?
Bah écoutez, ça va, il faut, on n'a pas le choix. Hein. Mm-hmm. On n'a pas le choix.
Quel âge avez-vous et d'où m'appelez-vous, Jacqueline ?
Alors, j'ai 74 ans.
Oui.
Et je vous appelle de Troyes dans l'Aube.
De Troyes, d'accord, très bien.
À Troyes, oui. pas loin de Paris. Hein.
Oui, pas très loin.
Pas très loin, ça fait 180 kilomètres.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi?
Alors, je vous amène parce que ça fait un petit moment que ça m'énerve. Parce que voilà, je suis non-voyante depuis l'âge de 30 ans.
Oui.
Donc c'est une rétinite pigmentaire qui vient tout doucement et qu'on perd la vue. Mm-hmm. Et qui ne se soigne pas. Il y a beaucoup qui doivent le savoir et qui m'écoutent. Et donc voilà, donc je suis à la AH depuis un certain temps, bien sûr. Je suis en retraite depuis 2010. Donc à longue petite retraite. Une retraite complémentaire qui n'est pas grosse non plus. Donc le gouvernement nous a augmenté de notre retraite je touchais 640 euros de retraite. Donc je touchais 674 euros, donc j'ai été augmenté de 34 euros. Mmh. Et j'ai augmenté de 3,50 euros donc, de ma retraite complémentaire qui me fait 80 euros. Donc.
D'accord.
Et voilà, de ce fait, je touchais la AAH de 357 euros. Mmh. Et d'un seul coup, le mois qui vient d'après que j'ai été augmenté de ma retraite, on me retire plus de 40 euros.
Donc,
on va dire 40 euros.
On vous retire 40 euros. Mais à quel titre, en fait, on vous retire?
Pourquoi? Bah, quel titre, justement? Je leur ai demandé.
Oui.
Donc, on m'a dit, c'est comme ça, vous avez été augmenté. Et donc, on vous diminue. Parce que là, de là. Alors, il faut dire que les allocations familiales, je suis non-voyante, ma fille se déplace parce qu'il manquait certains papiers que tous les ans, il faut donner pour la non-imposition, et puis les retraites et tout ça, et la retraite complémentaire qu'il faut leur donner pour poursuivre tous les prescriptions qu'ils nous donnent.
Mm-hmm.
Et donc, de là, d'un seul coup, et jamais, jamais, avant, on a eu quelques petites augmentations de retraite. Ils n'ont jamais touché à ma AAH. Et là, d'un seul coup, ils vont retirer 40 euros. Pourquoi? On ne sait pas. On nous a dit, c'est comme ça.
On ne vous a répondu que ça. C'est comme ça.
Oui, oui. Ah, c'est comme ça. D'accord. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, donc, de ce fait, alors, autre chose aussi, c'est que ma fille, elle est allée voir, apporter les papiers, ils lui ont dit, il faut que votre maman se déplace. Bah, elle dit, écoutez, c'est pas facile pour elle est non-voyante, bon, ça va plus vite si je viens. Ah non, il faut qu'elle se déplace, nous on ignore si elle est toujours vivante.
D'accord.
Alors écoutez, de ce fait, il faut que je me déplace ou alors il faut qu'ils me mettent sous tutelle, mes enfants, pour qu'ils s'occupent de mes papiers. Jamais je n'ai vu ça de ma vie.
Non, c'est très curieux. Très curieux.
Oui, c'est très curieux, oui. Alors, de ce fait, une dame un soir m'a appelé, un vendredi soir, me dire, écoutez, maintenant, il faudrait que vous soyez prise en charge par votre fille ou votre fils, soit par Internet, faire tous vos papiers par Internet, ou soit vous mettre sous tutelle.
Et pourquoi? Au nom de quoi, encore? Sous tutelle? C'est fou, ça.
Ben, je ne sais pas.
Oui.
Ben, je ne sais pas. Parce que je ne me déplace pas pour amener mes papiers aux allocations quand il le faut. Alors, ce qui contient, c'est que la retraite, combien je touche par mois, et la retraite complémentaire et la non-imposition. C'est trois papiers à donner. Et trois papiers, ben, vous ne savez pas ce que j'ai fait, je leur ai envoyé par recommandé.
Mm-hmm.
Et voilà, ils n'ont rien dit. De ce fait, mon fils, par Internet, il a quand même écrit, il a demandé une explication. Eh bien, votre maman a perçu trop, on l'a déduit sur la AAH, donc de l'augmentation de la retraite.
Et il vous enlève 10 euros, en fait.
40 euros qu'ils m'ont enlevé.
Ah oui.
Ce que j'ai touché de ma retraite et de ma retraite complémentaire qui m'a fait 40 euros, et ils ont dit... Alors, ils me donnent d'un côté, ils me prennent de l'autre.
Oui, mais c'est bien ce que je dis. En fait, ils vous donnent d'un côté 50... Non, 40.
Non, 40.
Et ils vous enlèvent 50 de l'autre côté. Donc, c'est bien... ils vous ont enlevé 10 euros, en tout.
Non, 40.
Ben non, Jacqueline, si ils vous augmentent de 40 euros d'un côté, on est d'accord là-dessus, et qu'ils vous enlèvent 50 euros de l'autre, vous êtes dedans.
Non, 40. Ils m'ont retiré 40 euros de la AAH parce que j'ai augmenté de 40 euros de ma retraite et de ma retraite complémentaire, qui m'a fait 40 euros.
Ok. Mais si vous êtes augmenté d'un côté de 40
et qu'on
euros
vous retire de l'autre,
et qu'on vous retire de l'autre, ça ne sert c'est une opération nulle, en fait.
Alors, bonjour le gouvernement, qu'est-ce qu'ils nous font?
Mais déjà...
Et jamais ils ont touché à la AAH. Jamais. Je leur ai dit, c'est pas possible de toucher à la AAH. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Alors, dès qu'elle voit, c'est comme ça, je serais bien des explications. Oui, s'il y a quelqu'un comme moi, qui est non-voyante, qui touche la hache, qui est retraité, qui s'est aperçu qu'il lui manque quelque chose, tout le monde est augmenté, hein, plus ou moins. Ça dépend de combien il touche. Mais donc, la hache, moi, jamais on m'a touché ma hache.
Mais bien sûr, c'est
la
bizarre.
Première fois.
C'est très bizarre.
Ah oui, tout à fait bizarre. Alors, est-ce que c'est que dans l'ombre, à trois? Ou est-ce que c'est des personnes aux allocations familiales qui ne sont pas compétentes?
Oui.
Mais tant pis, je leur ai dit.
Oui, non, mais c'est quelque chose qui est totalement curieux.
Personne ne peut vous répondre. Vous êtes bloqué, vous arrivez aux allocations familiales dans l'aube, oui. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas demander un rendez-vous. Vous ne pouvez plus les avoir au téléphone, vous ne pouvez les avoir que sur Internet, qu'on vous répond trois semaines après. Alors, on ne peut plus rien faire. Alors maintenant, j'envoie mes papiers par recommandé. Bon, ben, mon fils, maintenant, il va tout prendre en main par Internet. Mais enfin, bon, c'est quand même pas une solution. Hein.
Non, mais c'est n'importe quoi, cette histoire. C'est n'importe quoi.
Oui, ben, vous m'étonnez. Là, ben, ça fait 40 euros qu'ils m'ont retiré, j'étais contente. Et donc, pour une fois qu'ils augmentent bien la retraite, à 3,50 €, il y a la complémentaire. Bon, ça me fait un compte, ça me fait 80 €. Mais après, d'un seul coup, on me retire 40 €, même plus 47 € des allocations. Mm-hmm. Je ne comprends pas.
Non, c'est incompréhensible. Et puis surtout, si on vous répond, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Il y a
peu de chances que vous soyez très contente, pour le coup.
Bah, c'est pour ça que je me permets de vous appeler aujourd'hui, tant pis. Parce que donc Repas est quand même très écouté.
Oui.
Et donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner, ou qui m'appelle, vous donnez mon numéro de téléphone, qui m'appelle, soit une assistante sociale. Écoutez, c'est quand même bizarre. Personne ne comprend.
Mais non, mais personne ne comprend. Et puis, je vous dis encore une fois, si on vous répond, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, oui. C'est un peu court comme réponse, tout de même.
Ben voilà. Parce que j'ai augmenté ma retraite. Là, à ce moment-là, ils ne vous augmentent plus, plus rien.
Oui, enfin, vous avez été augmenté de votre retraite, soit, mais oui. Ça sert à quoi de faire ce type d'opération, en fait?
Parce que le gouvernement, il vous donne d'un côté, puis il vous reprend de l'autre.
Oui, c'est tout.
C'est tout. Mmh. C'est tout. Et on a eu des augmentations depuis 14 ans que je suis en retraite. Il y a eu quelques petites augmentations des retraites complémentaires. Mm-hmm. On m'a fait en 14 ans de temps, de la retraite complémentaire, j'étais augmentée de 9 euros en 15 ans. 14 ans de temps, 9 euros.
9 euros.
Je touchais. 9 euros. Je touchais quand j'étais en retraite en 2010, je touchais, monsieur, 71,36 €. Mm-hmm. Et vous voyez, aujourd'hui, j'en suis à 80 €.
80 €,
vous voyez, d'accord. Oui, voilà. Pour dire que quand j'ai travaillé de l'âge de 15 ans, jusqu'à 30 ans, que j'ai eu trois enfants, je prêtais la grossesse, et là, après, je perdais la vue progressivement, et là, j'étais obligée d'arrêter complètement de travailler. C'était dans Benetrie. Donc, je gagnais pas mal ma vie, mais après, avec les calculs des retraites, ça...
Oui.
Voilà.
Bon, bah écoutez, donc, tout ça est tout de même très curieux. Hein.
Oui, c'est curieux.
Ouais, vous avez bien fait de nous prévenir de ce genre d'agissement qui est complètement...
Voilà.
C'est surtout la réponse que vous avez. Comment on peut se permettre de répondre à quelqu'un qui a donné de l'argent toute sa vie, hein, qui a participé au système d'impôts? C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà.
Voilà. Alors, écoutez, alors les allocations familiales de Troyes, il y a un souci. On est bloqué, on peut pas les voir, on peut pas donner de rendez-vous, on peut rien faire. Rien.
Oui, oui. Rien du tout.
Vous écrivez par Internet, ils répondent de ce qu'ils veulent. Hein.
Oui. Mais c'est très cavalier, on va dire.
Oui, hein, oui. Alors, je vous dis pas 40 euros sur un budget, c'est 40 euros. Hein. Parce que quand vous faites vos comptes, bon, je n'ai pas de voiture, donc je ne paye pas d'essence, je ne paye pas d'assurance, peut-être. Mm-hmm. Mais avec, quand vous voyez, comme l'a écrit mon fils, qu'avec l'augmentation des loyers, du gaz, de l'électricité, et ben, l'augmentation de la retraite de la complémentaire, et ben, je vous dis, il y en a pour 100 euros dans le mois d'augmentation en tout, entre la mutuelle et tout ça.
Oui, donc
plus c'est... l'alimentation.
Oui, oui.
On a le droit d'aller chez le coiffeur un petit peu aussi. Hein, on a le droit de s'acheter des produits de beauté et d'entretien. On n'a pas le choix. On peut se nourrir.
Oui.
On peut s'habiller.
Mm-hmm.
Bon, je ne dis pas que j'en dépense pas des milliers d'euros. Mais enfin, si on veut vivre encore quelques années, il faut être bien dans sa tête et dans sa peau. Hein.
Oui, oui, parce que voilà. En fait, on se sent totalement dépendant d'un système. Et puis, voilà, ce genre de réponse, je trouve que c'est très, très irrespectueux.
Bah, c'est très irrespectueux, surtout qu'on vous donne... Alors, on pourrait vous dire, marquez les allocations s'ils ont... Je voudrais bien qu'ils nous montrent qui est-ce qui a décidé d'enlever 40 euros sur l'AAH, que jamais ça n'existait.
C'est-à-dire que même aux informations, vous n'avez...
Jamais, je n'ai rien entendu. Faites-moi confiance que les informations, tout ce qui touche, tout ce qui est handicap et tout cela, mm-hmm. je suis bien informée. Et là, d'un seul coup, on vous enlève tout ça.
Sarah nous dit au 739-21, c'est le prélèvement à la source, on ne comprend plus rien. Et puis pour Jacqueline, c'est à la retraite, il n'y a plus d'AH, mais elle peut demander l'APA, nous dit Bernadette.
C'est toujours passé. Je l'ai toujours, la hache.
Oui, c'est pour ça, Bernadette. Pourquoi vous dites qu'il n'y a plus de hache? Elle a encore la hache. Et puis ça existe toujours, la hache.
Oui.
Mm-hmm. Je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle pour vous, Jacqueline. Oui. C'est Anne qui veut réagir à votre témoignage. Bonsoir, Anne.
D'accord.
Vous êtes là? Vous êtes là, Anne?
Oui, je suis là.
Ah, très bien.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Quel âge avez-vous, Anne?
Ça dépend des moments.
D'accord. Bon, écoutez, on va faire comme si. Hein. Et puis, vous nous appelez d'où?
Du Cosmos.
Du Cosmos, très bien. Alors, vous vouliez réagir au témoignage de Jacqueline?
Je voudrais réagir parce que je me suis trouvée dans une situation exactement du même genre.
Oui.
Et en plus, je viens du fait d'en parler autour de moi, j'ai appris trois autres personnes qui ont eu le même problème. Enfin, soit récemment, soit moins récemment.
Mm-hmm.
Mais il y a un truc, on m'a dit aussi que sur Facebook, une de mes amies est tombée sur et elle n'a pas pu retrouver un endroit où plusieurs personnes réagissaient qui toutes avaient eu le même problème, c'est-à-dire que tout à coup, pour une raison ou l'autre, on leur coupe la moitié de leur alloc. Alors moi, je suis en situation d'handicap, donc j'ai une allocation adulte handicapé.
Mmh.
Enfin, je devrais dire maintenant une demi-allocation adulte handicapé, parce que il n'y a pas très longtemps, on m'a signifié que je ne toucherai plus que la moitié, enfin pour une année, parce que il y a deux ans, il y avait une somme qui était passée sur mon compte, qui provenait d'une assurance vie non imposable et tout, mais c'était passé sur mon compte. Alors, en passant par le fisc, puisqu'ils sont automatiquement au courant, et le fisc retransmet automatiquement aussi à la CAF, et donc à la CAF, pour eux, c'est comme si je touchais, alors que c'est pas imposable, hein. C'est comme si je touchais une certaine partie de cette somme.
Mmh.
Et du coup, ils ont calculé que ça faisait que pendant un an, je ne toucherais que la moitié de mon allocation.
D'accord. Et est-ce que on vous a répondu, on vous a expliqué exactement ce qui se passait?
On m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer.
D'accord,
là.
Très bien. Donc, Jacqueline, vous voyez, vous avez sans doute une partie de votre réponse dans l'intervention de Anne.
Oui, alors là, moi, je n'ai pas touché d'assurance vie, j'ai rien touché.
Mm-hmm.
Et là,
D'accord. Oui, donc...
parce que mes impôts, j'en paye pas.
Mm-hmm.
Donc, ça n'a pas changé. Donc, oui, parce que eux, sur ses comptes, ils ont vu qu'elle avait touché de l'argent. Oui, automatiquement, hein.
Oui, c'est ça.
Et même
qu'elle
ne paye pas d'impôts.
Mm-hmm.
Oh lolo.
Oui.
Quelque chose qui se passe, une entourloupe du côté de l'État qui essaie de récupérer des sous par tous les moyens.
Mm-hmm.
Et parce qu'en ce moment, ils sont
le trou de la sécurité sociale.
Donc, pardon,
le trou de la sécurité sociale, plus les GO.